franceinter.fr.
Ça se reconnaît un écologiste.
Les quotas de thon rouge.
Les OGM aujourd'hui ne servent à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 ans.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, qui va même essayer de vous réchauffer un tout petit peu, une émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite, avec Dofar Guérid et Michel Thomas à la technique aujourd'hui, et assisté de Stéphane Combes, c'est Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Et pour commencer, pourquoi dit-on ce cahier ? Une image popularisée par Céline dans les années 1930. Alors on sait que cahier désigne une coagulation sous l'effet d'un refroidissement ou d'une fermentation. Donc vous prenez d'un côté un très grand froid, vous leur présentez votre sang et vos veines, et ce cahier signifierait alors se refroidir au point que le sang ne puisse plus circuler tellement il se fige. Donc rien à voir avec « Oh, tu es ma belle petite caille et j'ai envie de coaguler avec toi ». Non, pas du tout. Alors, que se passe-t-il ? Oui, c'est la panique, oui, bien sûr. Rentrez donc les longues chaises, les chaises longues, les tongs à marguerite, les chapeaux de paille, il neige sur la canebière, dans le pastis, il n'y a plus que du glaçon pris au fond du verre, et un œil sur le calendrier s'impose. Mince, on est en février, c'est l'hiver, c'est donc atroce. L'anomalie saisonnière, je vous le rappelle, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'était de novembre jusqu'à janvier. Les marchands de sel, donc semi-dépressifs depuis décembre, reprennent des couleurs. Y aura-t-il assez de pelle à neige en lubrico machin local ? Les préfets seront-ils à la hauteur des événements ? Notre pauvre France, qui apprend déjà l'art du coucher dehors aux plus démunis par tous les temps, sera-t-elle prise en otage par le blizzard ? Ah, il nous manquait plus que ça. L'hiver en hiver ! Et ces écolos qui parlent de réchauffement climatique, c'est incroyable. Le froid qui vous élimine microbes, parasites, insectes nuisibles aussi sûrement qu'un gouvernement ou une OMC vous ratiboise les lois sociales est tout à fait nécessaire. La Terre va pouvoir dormir, se reposer sous son manteau blanc d'azote, les réserves d'eau des nappes donc se recharger, tandis que les hardis envahisseurs tropicaux vont enfin connaître les rigueurs de l'hémisphère nord. Oui, sur leurs vilaines pattes jaunes, les frelons asiatiques vont avoir de douloureuses engelures et les coccinelles aux yeux bridés du givre sur la carrosserie. Ah, ça leur apprendra à nous envahir, hein, les jardins français, aux insectes français. Ah, on me dit que ce n'est pas du tout un bon slogan. Non, pas du tout, et que d'autres s'en chargent actuellement. Bien, les actionnaires de GDF se frottent les mains. EDF va pouvoir réallumer ses centrales à charbon. On attend un cocorico nucléaire nous disant qu'on va exploser le seuil de 96 000 mégawatts. Et la précarité énergétique s'envolera par la même occasion grâce au chauffage électrique. Installés pour pas cher et depuis longtemps dans des maisons mal isolées, c'est ce qu'on appelle l'exception française. Les abeilles sont enfin au repos, se réchauffent dans la ruche, reprennent quelques forces pour affronter dans quelques mois les pesticides, le manque de nourriture, le varroa, les OGM. Zip ! Les bourgeons des arbres fruitiers ferment jusqu'au cou leurs petits blousons et le blé d'hiver pourra calmer ces jeunes pousses impatientes. Donc vive le vent, vive le grand vent d'hiver, sans qui ne languirait point les douceurs parfumées du printemps. Et que vois-je sur le Parisien aujourd'hui ? Je vois à Metz, en gros titre, moins 11 degrés aujourd'hui. Mais comment va-t-il, Jean-Marie Pell ? Bonjour Jean-Marie.
Bonjour à tous.
Bon, vous êtes calfeutré, Jean-Marie ?
Oui, il a fait moins 13.
Moins 13, bon, oui, ça va.
Le Parisien était optimiste.
Oui, ben c'est ça. Donc nous sommes dans votre petite Sibérie Lorraine, donc
oui.
vous ne bougez pas trop. Racontez-nous quand même les mécanismes aussi du froid, pourquoi ils sont nécessaires, ces mécanismes du froid ?
Écoutez, il y a une vague de froid, alors c'est pas un événement extraordinaire. C'est un événement qui se reproduit depuis 4 ans, de nouveau chaque année. Un peu avant, dans les premières années du siècle, il y a eu plusieurs hivers pratiquement sans froid. Alors, on a besoin du froid de l'hiver. Quand je dis « on », ce sont les plantes dont je m'occupe, comme tout le monde
oui.
sait. C'est une loi de la manière dont les plantes se sont adaptées au climat tempéré, donc marqué par des hivers. Beaucoup de plantes, beaucoup de graines de plantes ont besoin d'une certaine ration de froid pour démarrer au printemps. Alors, on peut parfois faire ça d'une manière artificielle quand on pratique ce qu'on appelle la vermalisation, et qu'on met des graines au frigidaire avant d'essayer de les faire germer, mais dans la nature, c'est un phénomène tout à fait courant. L'exemple bien connu de tous, c'est les céréales d'hiver. On les sème en automne, elles germent à la fin de l'automne et sont rases, sont une herbe, et puis là-dessus tombe la neige. Et donc c'est la vernalisation qui se produit. Et à partir du printemps, eh bien, ces herbes vont monter en tige et vont donner les épis de la céréale qui sera récoltée au début de l'été. Donc ces céréales d'hiver ont absolument besoin d'avoir froid et de passer l'hiver sous forme d'herbe. C'est tout à fait vrai aussi pour ces plantes qu'on appelle les bisannuelles. Vous voyez, ce sont des plantes qui, après avoir germé la première année, restent sous forme de rosettes et ne font pas de tiges. Et mettent simplement des feuilles qui restent au ras du sol. Arrive l'hiver et au printemps, la tige monte et va donner des fleurs. Le prototype, par exemple, c'est la digitale qui fonctionne comme ça, mais il y a beaucoup de plantes dites bisannuelles qui ont besoin de passer d'une année à l'autre à travers une saison d'hiver. Donc, la manière dont les plantes se sont adaptées à l'hiver montre bien que nous avons aussi besoin d'un hiver, parce que s'il n'y avait plus d'hiver du tout, leur adaptation se retournerait contre elles.
Alors Jean-Marie, ça élimine bien sûr les microbes, là j'en disais un petit mot. D'ailleurs on se rend compte que lorsqu'il fait vraiment grand froid, eh bien ça tue les rhinovirus, donc on a moins a priori donc de rhume. Mais c'est aussi valable pour ce qu'on appelle la vermine. Et il y a un dicton qui dit « hiver gelé fait vermine trépasser ». Donc là aussi c'est extrêmement important, parce que ça voudrait dire que si on avait vraiment des hivers extrêmement doux, on serait obligé de balancer encore plus de saloperies de pesticides, ce que nous ne faisons pas vous et moi, mais sur les jardins et sur les champs.
C'est absolument exact. Alors la vermine, c'était la riche biodiversité qu'on appelait comme ça autrefois. Maintenant, on a tendance à trouver que toutes ces petites bestioles, tous ces bactéries, tous ces petits champignons du sol, toute cette microfaune, tous ces insectes, lorsqu'ils prolifèrent, deviennent des ennemis. Notre effort en matière de respect de la biodiversité, c'est de nous mettre bien avec eux et de savoir en tirer le meilleur usage possible. De sorte qu'aujourd'hui, on ne parle plus de vermine de la même manière.
Alors, on parle de biodiversité, ça va nous faire le lien donc avec le thème de cette émission, puisque c'est une émission qui va s'adresser à tout le monde, mais plus particulièrement aux jeunes, avec d'ailleurs aussi des témoignages de jeunes, donc des gens qui sont dans le métier de la biodiversité. Bon, le gros, on va dire, des métiers dits verts, enfin qui ne le sont pas tant que ça, c'est le domaine de l'eau, des déchets, de l'énergie, des transports. Et là, on va parler d'écologie et de biodiversité avec différents masters donc qui existent en France. Qu'avez-vous un peu envie de dire sur ce thème-là? Parce que vous êtes en fait, vous êtes né, vous passionné, heureusement qu'il y a eu ce jardin de Rodemack près du Luxembourg et de l'Allemagne, et qui vous a donc complètement formé grâce aussi à votre père et votre oncle qui étaient jardiniers. Mais qu'avez-vous envie de dire sur ce thème?
Mais écoutez, j'ai envie de vous dire ce que j'ai fait il y a une semaine en allant à Antibes.
Ah, c'est pas mal, Antibes.
J'étais invité à Antibes, voilà. Et j'étais invité par un conseiller municipal qui s'appelle Mathieu Gilly, qui est un tout jeune homme de 25 ans. Je l'ai connu à travers une conférence il y a déjà plusieurs années à Cannes, et il était venu me dire son immense désillusion d'avoir été en fac, il était en première année, pour précisément étudier la nature, la biodiversité, les oiseaux, les plantes, les insectes, etc. Et il me disait, on ne nous en dit pas un mot. On ne fait que des statistiques, des maths et des matières qui ne m'intéressent pas du tout. Et je lui avais dit, mais alors faites plutôt un BTS horticulture, par exemple. Ce qu'il a fait, il a beaucoup aimé ses études, et si je pense à lui, c'est parce qu'il est conseiller municipal à Antibes, chargé des relations avec le conservateur du littoral et chargé de la protection du milieu méditerranéen.
Ça, c'est le titre qu'il a.
Oui, c'est son titre.
C'est très rare, hein, ça.
C'est très beau.
Oui.
C'est très étonnant. C'est très étonnant qu'Abert, qui est ministre, M. Léotti, en ce moment, puisse conférer à un jeune homme la gestion dans la ville d'Antibes, j'en ai pas, qu'on n'imagine absolument pas écolo du tout.
Non.
On pensera plutôt au bétonnage, naturellement, comme ce que l'on a pu voir.
Bah on n'a pas tort, hein, la côte d'Azur est devenue la côte d'Usure, on le sait depuis longtemps.
Oui, tout à fait. Et le voilà parti. Alors il a une chance parce que juridiquement, il va s'occuper des espaces naturels sensibles. Alors ceux-ci se caractérisent par deux points. Pour qu'ils soient sensibles, il faut qu'ils soient menacés et qu'ils aient une diversité riche.
Alors Jean-Marie, on va s'arrêter là parce que justement, on a donc notre émission qui va se dérouler avec à la fois nos jeunes, nos enseignants. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage dans votre petite Sibérie, donc Lorraine. Et je vais peut-être vous rejoindre d'ailleurs très très prochainement, hein, Jean-Marie. Voilà.
Oui. Ce soir, je vais vous chercher au train.
Bon, bah c'est
il faudra mettre une canadienne.
Oh bah j'aurai tout. Oui, il y aura même la bicyclette, parce que je suis un garçon très optimiste. Et puis on va
bien travailler.
Et on va très bien travailler pour nos amis auditeurs qui
font
nos
amis français.
Voilà, c'est ça.
Se
geler dans le jardin.
Et on n'attrapera pas la grippe, parce que quand il fait très froid, vous l'avez dit, on est protégé.
Bon, vous avez de l'antigel qui s'appelle du vin de Moselle, c'est formidable. Merci Jean-Marie. Donc nous à ce soir, et puis sinon la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie.
À ce soir.
C'est au de mon amour, Denis Chessou.
Le jour se lève et tu dors mon amour. Moi je te regarde, je ne prends pas garde à tes affaires en vrac. Tout autour, mon amour, le désordre c'est ton style. Et le mien de t'écouter, endormi dans cette ville, respirer. Le temps d'aimer, si peu de temps pour aimer tant, mais le prendre sans attendre, sans comprendre. Le temps d'aimer, le prendre sans attendre, sans comprendre. Le temps d'aimer, et plus je t'aime, et moins je te connais. Même si de près, là je t'imagine quand le soleil dessine ton âme comme une sanguine. La révolte c'est ton style, à tes risques et périls, je ne suis ni désinvolte ni docile. Le temps d'aimer, si peu de temps pour aimer tant, mais le prendre sans attendre, sans comprendre. Le temps d'aimer, le prendre sans attendre, sans comprendre, le temps d'aimer. Le désordre, c'est ton style, et le mien de t'écouter, endormi dans cette ville, respirer. Le temps d'aimer, si peu de temps pour aimer tant, mais le prendre sans attendre, sans comprendre. Le temps d'aimer, le prendre sans attendre, sans comprendre. Le temps d'aimer, le silence c'est ton style, et le mien c'est de tout dire, quand je me sens près de toi en exil. Le temps d'aimer.
Superbe ça donc Julien Clerc, le temps d'aimer qui fait partie des choses qui ne sont pas recensées par le PIB. Et non, jamais ce genre de choses. Mais non, tout votre bonheur personnel n'a rien à voir avec tout ce que l'on vous raconte à longueur de colonne aujourd'hui, un petit peu partout. Alors nous allons parler maintenant quand même d'avenir avec à la fois des jeunes et puis des enseignants et puis Jean-Jacques Blanchon. Vous êtes chargé de mission biodiversité, agriculture et territoire à la Fondation pour la nature et l'homme, donc celle de Nicolas Hulot. Vous avez travaillé pas mal à la Ligue pour la protection des oiseaux en tant que gestionnaire d'espaces naturels. Et donc on va parler aujourd'hui non pas des métiers d'environnement, je le disais tout à l'heure, donc classiques, c'est-à-dire l'eau, le gaz, l'électricité, enfin les déchets, transport, énergie, mais on va parler de ceux qui concernent vraiment l'écologie. Et donc brossez-nous peut-être d'abord un tableau général, s'il vous plaît.
Alors d'abord, il faut dire que ces métiers, on n'en a pas encore la visibilité puisque elle est en train d'être construite. Hein, c'est un chantier qui a démarré dans le cadre de la dynamique du Grenelle de l'environnement pour justement leur donner une visibilité. Alors, de ce travail, donc il y a un premier inventaire qui a été fait, et puis il aboutit à l'identification d'à peu près 41 métiers, rapportant à 6 grandes familles de métiers, ce qui représente environ 60 000 emplois, on va dire. Alors, la genèse de ces métiers, ils sont partis depuis à peu près 30 ans des gestionnaires d'espaces naturels, qui ont en fait défini les compétences de ces métiers, construit des référentiels métiers. Donc on est dans la dynamique de la création des espaces naturels par le Conservatoire du Littoral, la dynamique de la création des réserves naturelles, puis la création des conservatoires régionaux d'espaces naturels.
Alors, quels sont, Jean-Jacques Blanchon, donc, les différents types de métiers ?
Il y a ceux qui concernent ce qu'on appelle les fonctions d'administration et de soutien.
Oui. Hein ?
Donc c'est par exemple un directeur financier, hein, où ça va être un responsable juridique, par exemple, mais plus spécifique au domaine environnemental. Et puis, il y a des compétences qui sont spécifiques, c'est celles qui concernent l'aménagement ou la restauration des milieux naturels. Et là, on fait le lien avec une nouvelle filière qui est en train d'émerger, qui est celle du génie écologique, hein, et qui fait le lien avec toute la dynamique des études d'impact et des études environnementales qui est apparue dans les années 76 avec la loi sur la protection de la nature, et puis qui est en train de prendre un nouvel essor, en quelque sorte. Donc là, on va trouver des métiers comme les agents d'entretien d'espaces naturels. On va trouver également des chefs d'équipe, hein, parce qu'il faut encadrer un certain nombre de techniciens, tout simplement. On va trouver des ingénieurs pour définir très précisément les travaux et puis des procédures. Et puis, on va trouver également des personnes qui sont plus spécifiques de tout ce qui concerne les procédures foncières. Hein, on voit que la grande dynamique de la gestion et de la protection de la nature, elle s'est engagée avec des démarches de maîtrise du foncier, d'acquisition foncière ou de passage de conventions de gestion. Voilà. Un autre exemple de compétences, c'est toutes les compétences qu'on rattache aux chargés d'études scientifiques. Quand on démarre une opération de gestion de milieu naturel, il faut dresser un état initial, donc c'est un plan de gestion. Ensuite, on se donne des objectifs de gestion, de réhabilitation ou de restauration d'espace. Et ensuite, il va falloir être capable de suivre les résultats des travaux qu'on a engagés. Et on va retrouver un peu cette dynamique et cet enchaînement de procédures dans ces métiers, dans la filière des métiers du génie écologique qui est en train de se structurer en ce qui concerne les entreprises privées.
Jean-Jacques Blanchon, on va avoir en ligne tout de suite Gwenaëlle Delaruelle. Vous allez entendre ce sigle IEGB. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ingénierie en écologie et en gestion de la biodiversité. Gwenaëlle Delaruelle, vous avez en gros 25 ans, c'est très bien. Qu'avez-vous fait précisément ?
Donc j'ai fait le master IEGB à l'université Montpellier 2 en 2009 et 2010. Et j'ai fait mon stage de deuxième année de master dans un bureau d'études qui s'appelle Andromède Océanologie.
Bien, et après vous avez été embauché. Qu'est-ce que l'on fait chez Andromède Océanologie ?
Andromède, c'est une société qui est organisée en deux pôles, avec un bureau d'études qui est spécialisé en expertise de l'environnement marin et un pôle valorisation. Et donc moi, je travaille plutôt dans le bureau d'études sur la cartographie de sites Natura 2000 en mer.
Donc qui sont les clients, que l'on comprenne bien quand vous dites parler des sites Natura 2000 en mer, donc
Nous réalisons des études pour des communautés de communes, pour des communes, ou aussi pour des services de l'État, donc comme l'agence de l'eau ou l'agence des aires marines protégées.
Et votre travail au quotidien, c'est quoi ? Vous plongez, vous regardez les cartes ? Qu'est-ce que vous faites ?
Oui, alors on a une activité assez diversifiée. Il y a de la plongée puisqu'on a un club de plongée. Donc on fait aussi de l'éducation à l'environnement. Et puis c'est la réalisation de cartographie des habitats en utilisant des moyens acoustiques comme le sonar, la bathymétrie. Donc il y a de l'acquisition de données en mer lors de campagnes de vérité, terrain. Et puis ensuite on fait de la cartographie des habitats au bureau, la rédaction de rapports, l'analyse de photos. Et puis on rend toutes ces études aux commanditaires.
Alors, vous rendez donc ces rapports. À quoi vont-ils servir après ? Ça va être une aide à la décision ? C'est une obligation ?
Oui, ça dépend des études, évidemment. Hein, mais par exemple, sur le réseau Natura 2000, c'est donc des sites qui ont été désignés en mer par l'État pour la Commission européenne. Et donc, les diagnostics que l'on réalise vont ensuite être couplés à des diagnostics socio-économiques pour ensuite essayer de concilier la protection de la biodiversité sur ces sites et le respect des activités socio-économiques.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
Eh bien, beaucoup de choses. Déjà, je suis une passionnée du milieu marin, tant au niveau des habitats que des espèces. Ce qui me plaît, c'est la diversité des activités. On fait autant du travail de bureau que de travail de terrain, autant avec de la rencontre avec des acteurs. Donc c'est très diversifié, c'est vraiment intéressant et j'apprends tous les jours de nouvelles choses sur la biodiversité marine. Donc c'est super.
Et comme vous avez une compétence, en fait, ça s'est plutôt bien passé entre le monde étudiant et le monde du travail. Vous avez enchaîné assez vite.
Ben, en fait, mon stage s'est déroulé sur Natura 2000. Oui. Et donc, comme après, on avait plusieurs sites en Méditerranée, c'est vrai qu'ils m'ont embauché dans l'idée de continuer à rédiger les rapports Natura 2000. Et puis, au fur et à mesure, j'ai touché aussi à d'autres études. Et puis, voilà, actuellement... Je suis encore en poste.
Merci à vous Gwenaëlle, à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Ben voilà donc Gwenaëlle, 26 ans que connaît Olivier Thaler, qui est maître de conférence en biologie à l'université de Montpellier 2. Pourquoi ? Parce que va ouvrir le 7, 8 et 9 février les portes du salon des métiers des professionnels de l'écologie. Et donc c'est bien notre sujet aujourd'hui. Bonjour Olivier Thaler.
Bonjour.
Vous êtes avec nous donc grâce à nos amis de France Bleu donc à Montpellier, à France Bleu Hérault. On entend donc le témoignage de ces jeunes. Qu'est-ce que vous avez voulu faire pour mettre en avant donc ces différents métiers et créer cette filière ?
Alors au niveau de l'événementiel là de la semaine prochaine, ce qu'on cherche à faire, c'est de faire émerger l'idée que à travers les exemples de Gwenaëlle et de mes diplômés, ben c'est une véritable nouvelle filière socio-économique qui émerge dans l'environnement, mais spécifiquement autour de l'écologie.
Il y a un côté tout à fait appliqué hein, de votre master des métiers de l'environnement. C'est-à-dire, alors, est-ce que ce sont des master pro, comme on dit, c'est effectivement en alternance
C'était dès le départ donc une formation qui a été créée de zéro dans l'idée de ce pari d'un marché de l'emploi qui arrive à maturité. Au niveau de ce qu'on peut appeler l'ingénierie écologique, tout à l'heure Jean-Jacques a cité le génie écologique, l'emploi qui correspond, bah, c'est l'ingénieur écologue. C'est l'écologie qu'on pourrait qualifier aussi de appliquée au sens distinct de l'écologie théorique et générale qui existe depuis longtemps vers les métiers de la recherche ou les métiers du professorat. Hein, donc on vise là des métiers qui supposent des études à bac plus 3 et bac plus 5.
Alors,
L'objet du rendez-vous la semaine prochaine.
Voilà, donc sur le profil, ils ont une licence en biologie au départ. Bon, bien sûr qu'ils sont motivés, ils ont envie de vivre dans le concret, sur le terrain. C'est pas de la recherche fondamentale, mais il faut passer par quoi avant ?
Alors oui, on est bien dans le système LMD, licence, master et doctorat éventuellement. Donc, pour entrer dans le master d'ingénierie écologie, bah, il faut être diplômé d'une licence ou d'une équivalence de licence. Le gros des étudiants sont des licenciés de biologie au sens large. Hein. Ils sont plus ou moins spécialisés dans les oiseaux ou les poissons ou les plantes, ça peu importe. Et puis, on a aussi des étudiants qui ont rejoint la licence en passant d'abord par un cursus bac plus 2 de type brevet de technicien supérieur ou même DUT, hein, diplôme universitaire technologique dans les IUT. Donc, on a gros du vivier la licence et d'autres qui viennent de ces formations à bac plus 2.
Alors, ce n'est pas forcément parce qu'on aime les papillons, les oiseaux qu'on décrochera le master à tous les coups. Quand même, sur 200 candidats, vous en prenez quoi ? 35, c'est ce que j'ai vu comme chiffre à peu près ?
Oui, malheureusement, oui, non, voilà, c'est vous avez dit pile les chiffres. Donc c'est vrai que c'est une filière sélective avec un petit bémol quand même. Enfin, je veux dire, je veux relativiser les choses. Mmh. On demande pas forcément que des moutons à six pattes totalement sortis du lot.
C'est gentil.
Je crois qu'un étudiant, non, mais un étudiant qui est, je dirais, motivé par ses métiers, qui est mature dans son envie de travailler et qui ensuite, dans ses études, s'implique fortement, c'est totalement un projet de formation à sa portée.
Quoi. Alors, avant de retrouver donc un autre étudiant, Jean-Jacques Blanchon, bon, il y a ceux qui peuvent faire ce master, mais il y a d'autres qui sont passionnés de nature, d'écologie, qui n'ont pas forcément cette chance. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Est-ce que vous voyez ça ?
Alors, c'est une vraie question dans l'identification de ces métiers et les conditions de l'accès à ces métiers. Beaucoup de politiques publiques tirent ce marché de l'ingénierie écologique, puisque en France, c'est environ 2 milliards d'euros. Donc on voit qu'il y a un marché potentiel. Je prendrai un exemple. Les lois Grenelle, quand elles ont voté la mise en œuvre des schémas régionaux de cohérence écologique, on s'aperçoit que les collectivités territoriales, puisqu'elles doivent rendre ce schéma d'orientation en 2012, sont en train de recruter des professionnels. Et la ville de Nantes, par exemple, vient de recruter, au sein de sa direction eau et biodiversité, une chargée d'études des comptes écologiques. Ce lobbying en défaveur de l'écologie qu'on voit naître, c'est une vraie question par rapport au niveau de formation formation donc déjà qui est à l'ampleur des jeunes qui arrivent formés pour aborder ces questions, attention, il y a un vrai risque, et on l'a vu sur la filière photovoltaïque, que tout simplement des,
qui a été planté,
une perte d'engagement, voilà, une perte d'engagement ou de lisibilité peut entraîner, non pas un effondrement, mais en tout cas faire apparaître de très grandes difficultés ensuite dans l'accès à l'emploi et la recherche à l'emploi de ces métiers.
On vous a rajouté un peu de grillon avec Valérie Ayestara. Eh bien oui, bien sûr, ça fait du bien en ce moment. Grillon, d'ailleurs, qui ne vit pas en t-shirt dans son habitat avec 22 degrés. Enfin bon, vous faites ce que vous voulez. On continue dans quelques instants, ce sera après Bruce Springsteen. Très bien, ça, Springsteen sur France Inter, CO2, mon amour, donc avec vous cet après-midi en direct. J'espère que vous allez bien, que vous avez, ouais, vous avez bien chaud et que. On va poursuivre ce voyage donc sur les métiers de la biodiversité donc aujourd'hui, qui concerne, j'espère, pas mal de jeunes. Nous aurons d'ailleurs, je tiens à vous le dire aussi, en fin d'émission, Christian Couloumi, qui est garde, qui est chef de secteur dans le parc des Écrins, et qui nous racontera, lui, sa vocation. C'est pas qu'on recrute actuellement dans les parcs nationaux, on recrute pas du tout, mais sa vocation est tout à fait intéressante. Nous avons en ligne pour poursuivre le voyage, Raphaël Colombo. Raphaël, racontez-nous, quel est votre parcours ?
Alors, moi j'ai un parcours d'abord en biologie, avec une licence de biologie à la faculté des sciences d'Orsay, et puis ensuite un master en écologie à l'université de Montpellier, ainsi qu'un double master avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris.
Et vous avez été engagé par un bureau d'études en écologie qui s'appelle Gaïa Domo. Quel est votre quotidien ? Quel est votre travail ?
Voilà, alors en gros, j'ai été embauché comme expert naturaliste, ou comme chargé de projet. Et donc mon quotidien, eh bien, c'est de la mission d'expertise sur le terrain. Donc globalement, au printemps et à l'été, je suis sur le terrain avec mon filet à papillons, mes détecteurs d'ultrasons et mes chaussures de randonnée. Mmh. Et l'hiver, je suis plutôt devant l'ordinateur à faire de la cartographie, de la rédaction sur les études qui ont été faites au printemps et à l'été.
Vous travaillez pour qui ? Quelle est la demande ?
Alors, je travaille pour différents types de clients. Alors, ça peut être des clients privés, comme des entrepreneurs ou des aménageurs. Ça peut être aussi des collectivités territoriales, des conseils généraux, des communes.
Alors, pourquoi est-ce qu'on fait appel à vous? C'est-à-dire que votre expertise, elle consiste en quoi?
Alors, il y a deux types de choses. Alors, souvent, pour les études réglementaires, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis quelques années, la nature est devenue réglementaire. Alors, c'est-à-dire qu'en gros, avant un projet d'aménagement qui va dépasser une certaine somme d'argent, l'aménageur va être dans l'obligation de réaliser une étude d'impact avec un volet milieu naturel.
Et c'est là que vous intervenez.
Voilà, donc c'est un peu comme on est obligé de faire des études d'archéologie ou voilà, on va vérifier, donc une entreprise comme la mienne ou une association qui va être missionnée pour réaliser des inventaires sur la faune et la flore et pour vérifier que le projet n'aura pas d'impact sur la faune et la flore, donc sur les espèces qui sont protégées ou qui sont intéressantes dans la zone concernée.
On a tous en tête l'histoire du fameux pic prune, hein, donc qui avait freiné ou bien arrêté des autoroutes. Bon, donc on absolument dans ce cas-là. Et vous, alors, vous avez une spécialité, on va dire que vous intéressez aux chauves-souris.
Voilà, mon métier, c'est chiroptérologue.
Oui.
Donc, c'est-à-dire que moi, je vais me balader la nuit avec un détecteur d'ultrasons, je vais poser des filets et je vais essayer de réaliser un inventaire sur les chauves-souris pour vérifier que le projet aura un impact le plus faible possible, aura pas d'impact sur ces bêtes-là.
Mais alors, ensuite, bien sûr, c'est pas vous qui prenez la décision, c'est vous avez fait votre étude d'impact. Puis si vous dites, bah attendez, excusez-nous, mais là, on est dans un couloir à chauves-souris qui est assez exceptionnel, qu'est-ce qui se passe?
Alors, dans ce cas-là, en fait, moi, mon rapport est remis à la DREAL, donc un service décentralisé de l'État au niveau régional. Et cette DREAL va poser un avis sur le projet et va donner un avis. Et le préfet ensuite tranchera et décidera si le projet sera fait ou pas. Ou si le projet est fait et s'il y a des impacts, quelles sont les mesures qui vont permettre de réduire ces impacts ou quelles sont les mesures qui vont être prises pour pouvoir annuler complètement les impacts ou voir, dans un dernier recours, les compenser. Donc ça, c'est le mot à la mode en ce moment. Oui. C'est
la compensation.
Comment, en fait, voilà, la compensation écologique.
Donc en fait, vous remerciez la réglementation, parce que grâce à la réglementation, eh ben, on ne peut plus faire vraiment n'importe quoi, et ça a permis aussi donc, à des bureaux d'études d'émerger.
C'est sûr que depuis que ces réglementations existent, la plupart des bureaux d'études qui se sont montés il y a une dizaine d'années ont grossi de manière complètement exponentielle, et ça n'arrête pas, et a priori c'est parti pour durer encore quelques temps.
Alors il y a beaucoup de monde sur les oiseaux, mais peut-être un peu moins sur les chauves-souris. Hein.
C'est vrai que les bureaux d'études qui recrutent, par exemple, là, on va arriver en période de printemps, donc les principaux bureaux d'études vont recruter en ce moment des naturalistes de terrain. Et les groupes, a priori, les plus demandés, là où il y a le plus de demandes et où il y a le moins de monde, du coup, le moins de naturalistes, c'est quand même la botanique et également les chauves-souris.
Vous êtes en CDD ou vous êtes en CDI?
Alors moi, je suis en CDI.
Eh ben bravo. Merci à vous, Raphaël, et à très bientôt.
Eh bien, au revoir, Denis, et au revoir à tous.
Voilà, donc Olivier Thaler, donc je le rappelle, un maître de conférence en biologie à l'université de Montpellier 2, un des élèves, un de vos élèves que l'on vient d'entendre, donc ce fameux Raphaël. On le rappelle, les employeurs, ce sont donc les collectivités, ce sont les bureaux d'études principalement. Qu'est-ce que l'on voit d'autre?
Les associations, Raphaël l'a évoqué tout à l'heure, qui peuvent intervenir là sur le champ de toujours de ces études d'expertise naturaliste, mais aussi beaucoup d'associations dans le domaine assez ancien maintenant de l'éducation à l'environnement, éducation au développement durable. Aujourd'hui, ces associations trouvent dans la biodiversité un nouveau thème de sensibilisation qui est donc, moi, ce que j'appelle maintenant l'éducation à la biodiversité. Donc ça, c'est aussi un secteur d'emploi tout à fait significatif. Jean-Jacques a aussi rappelé quand même les employeurs traditionnels, historiques du secteur, qui sont les réserves naturelles, les parcs naturels régionaux, les conservatoires et aussi les laboratoires de recherche dans des aspects plus appliqués. L'INRA ou le CNRS embauche de jeunes ingénieurs de recherche ou d'études sur des thématiques très appliquées d'écologie. Alors je rebondis sur l'intervention de Raphaël pour souligner quelque chose de très spécifique à cette filière de formation de l'écologie, c'est l'importance capitale de l'école buissonnière au sens strict. Mmh. Il est très important que nos étudiants, avant de rentrer à l'université et même pendant l'université, pensent à fureter dans les buissons et à sécher les cours pour aller apprendre un petit peu plus sur les oiseaux, les plantes. J'insiste sur ce point pour tous les étudiants qui me disent être passionné de nature. Bah, si vous êtes passionné de nature, commencez par y passer les week-ends et les nuits. et vous aurez déjà acquis au moins 50% des compétences nécessaires à ces métiers.
Mais bien sûr, et donc le mot école buissonnière donc prend tout son sens. Olivier Thaler, notre travail aujourd'hui, c'est donc d'ouvrir, on va dire, des portes, mais c'est pas de raser gratis. Je veux dire par là qu'il y a aujourd'hui en France 567 000 jeunes qui préparent un master à l'université ou bien en école. Il y en aura 600 000 en 2015. Le ministère de l'enseignement supérieur a recensé plus de 2000 masters, dont plus de 5000 spécialités à l'université, et les écoles donc ne sont pas en reste. Donc l'écologie, on va dire, n'échappe pas à la règle. On va dire que les sciences de la nature représentent 4,2% des masters aujourd'hui. Bon, mais dans votre domaine, j'en ai vu un certain nombre. Alors, est-ce qu'il y en a trop ? J'ai vu une trentaine, par exemple, en France. Est-ce que tous marchent ? Est-ce qu'il va y avoir un débouché pour tous ? C'est quoi un peu la différence ?
Alors, il y a sans doute un petit excédent d'hommes de formation et donc de diplômés qui arrivent sur ce marché de l'emploi. Mais surtout, je crois qu'il faut insister sur les aspects qualitatifs. Il y a beaucoup de formations de master qui se sont positionnées sur ces métiers de l'écologie appliquée sans avoir fait la véritable révolution pédagogique que ça suppose. C'est-à-dire qu'il faut vraiment dire un petit peu au revoir à l'idée de former des jeunes scientifiques pointus, brillants, susceptibles de rentrer dans nos laboratoires de recherche ou de nous remplacer demain devant les étudiants dans nos amphithéâtres, et faire le pari d'un enseignement qui va centrer beaucoup de sa pédagogie sur l'acquisition de compétences qui n'ont rien à voir avec l'écologie. C'est la compétence qui est autour de la gestion de projets, autour de problématiques économiques et sociales, autour de problématiques de communication, et qui sont forcément au détriment de l'écologie scientifique. La mentalité et l'état d'esprit de l'étudiant sont déterminants. Il y a un aspect orientation qui est très important. Je viens cette année de lancer une expérience qui est donc l'ouverture de la deuxième année du master sous le format très particulier de pédagogie qui s'appelle l'apprentissage. Donc l'étudiant est apprenti d'abord d'une entreprise et suit ma formation en alternance entreprise et formation. Et là, dans ce cadre-là, l'étudiant est strictement condamné, j'ai envie de dire, à travailler dans l'intérêt des compétences d'une entreprise et orienter son enseignement dans ce sens-là. Ces étudiants-là, ils sont aujourd'hui salariés tout en étant étudiants, ils gagnent déjà plus de 1000 euros par mois, et c'est clair qu'ils sont déjà pré-embauchés. Voilà. Combien de mes étudiants en première année vont accepter de jouer le jeu de l'apprentissage ? Eh bien, il y en a une bonne moitié qui n'est pas encore prêt à cela.
Alors, savez-vous combien gagnent donc vos étudiants après, puisque là, donc, nous interrogeons en fait des jeunes qui sont déjà employés avec un an ou deux ans maximum dans une entreprise, dans une société. Ils gagnent combien, Jérôme, en débutant, sur une fourchette?
Oui, alors on réalise des enquêtes d'insertion professionnelle à un an et trois ans, et on interroge évidemment sur l'aspect salarial. Donc là, alors là aussi, il y a un langage de vérité. Ils sont bien dans une convention collective de type Bac plus 5, et clairement, ils sont dans la fourchette basse de ces salaires, c'est-à-dire en l'embauche, ça tourne autour de 1300 à 1500 euros net par mois. Mmh. Ceci est donc en retrait par rapport à des filières plus mûres qu'on trouve dans les universités scientifiques. Par exemple, si je compare avec l'informatique, l'aéronautique, vous voyez, on est quand même 20% en dessous. Mais vous avez entendu Gwenaëlle, c'est quand même des métiers où on est quand même 50% sur le terrain, elle a dit c'est super. Bon, Raphaël, il passe son temps à courir après les chauves-souris. Bon, c'est des métiers passion, c'est des métiers où le salaire a une bonne part, je dirais, qui est en nature, quoi. Oui. Et c'est au contact de la nature, ça, cette nature. Voilà.
Voilà, donc ne vous méprenez pas, hein, c'est être payé en nature, c'est vraiment dans le premier sens du terme. Mais oui, François Hardy, on y va.
Mauvaise nouvelle, catastrophe à la chaîne, où l'on voudrait disparaître, mettre un terme à cette vie de labeur et de peine, sans plus de remords qu'un vieux cheval mort. Mais que tu tombes ou non, on chandonne, pas plus de vaincu que de vainqueur. Avec des fleurs,
son sac. Comme ça on voit que tu tombes au champ d'honneur. Peuple de vaincus, que de vainqueurs. Pierre, Paul ou Jacques. La crise, le crack.
Petite émission qui respire sur France Inter.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Oui, qui respire, mais je tiens aussi, parce que ça on l'entend très peu dans les informations, mais avec le froid, vous avez une montée des, ce qu'on appelle les particules fines et aussi donc le NOx aussi, et ça c'est pas bon du tout pour les bronches. C'est une autre émission, on en a déjà parlé, nous avons en ligne Laureline Iris, diplômée également. Quel est votre parcours, Laureline?
Donc un master ingénierie en écologie et gestion de la biodiversité. Mmh. Donc, suite à une école d'ingénieur sur de l'éco-industrie. C'était pour compléter et me spécialiser.
Et aujourd'hui, vous êtes à la Lyonnaise des Eaux. Et que faites-vous à Lyonnaise des Eaux?
Alors, la Lyonnaise des Eaux, donc producteur d'eau potable et traitement de l'eau, fait aussi donc de la restauration et de l'entretien de milieux naturels, cours d'eau, rivières, plans d'eau. Et donc, je travaille dans cette partie-là, dans ce domaine-là, en fait.
Alors, voilà. Restauration, qu'est-ce que cela veut dire? Que l'on comprenne bien. Vous redonnez de la vie à des rivières, à des cours d'eau?
Oui, par exemple, on va essayer de reconstruire des berges qui sont bétonnées, on va en refaire des berges végétalisées, on va refaire revenir la nature un peu donc sur ces rivières, ces plans d'eau. Donc c'est un entretien ensuite, tout ça en plus, avec un entretien derrière écologique donc de la nature. Et pour retrouver une qualité meilleure de l'eau, une qualité végétale, refaire venir une biodiversité donc plus conséquente en fait, et reconstruire ce qu'on appelle des corridors écologiques. Voilà.
C'est une demande forte des collectivités locales.
De plus en plus, on retrouve donc des collectivités, oui, qui mettent un attrait fort à ces aspects, en fait, de leur territoire.
Et votre travail au quotidien, qu'est-ce que c'est? Vous modélisez, vous allez sur le terrain, vous prenez des informations du terrain?
Ça passe effectivement par un travail de terrain où on va visiter donc le cours d'eau, les plans d'eau, on va voir ce qu'il y a comme entretien, on peut faire un programme d'action par rapport au plan d'eau. On fait une qualité globale, on voit la qualité globale des milieux et en conséquence, on va mettre en place tout un programme d'action.
Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce choix?
La diversité des programmes, enfin des actions, ça change beaucoup. La rencontre avec plein d'acteurs du territoire, c'est un tout en fait. Les activités sont très très diverses et on bouge quand même. Au final, on reste pas que dans son bureau, même si ça fait partie d'une grosse part du travail. Et donc voilà, ça bouge.
Et lorsque vous étiez plus jeune, vous vous intéressiez à la nature, à l'environnement. Il y a un grand décalage entre ce que vous souhaitiez faire à l'époque et ce que vous faites aujourd'hui?
Un peu, j'imaginais pas que ce genre de métier pouvait exister. Donc, mais bon, après, le projet professionnel s'affine au fur et à mesure des années. Ça s'approche. Enfin, voilà, moi, je suis dans mon domaine, on va dire. Ça me convient parfaitement aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire et que j'espère développer encore. Quoi.
Depuis combien de temps vous intéressez à l'écologie?
L'écologie, réellement, ça fait déjà plusieurs années que j'ai plongé mon nez dedans. Réellement, 4-5 ans. Ouais. Voilà.
Et alors, puisque l'on fête en ce moment donc les zones humides avec le programme Ramsar, j'imagine que vous travaillez dessus également.
Oui, les zones humides, comme en fait pour travailler beaucoup sur la capacité épuratoire importante des zones humides, donc profiter en fait des capacités de la nature à épurer l'eau, parce que quand même donc notre domaine c'est globalement c'est l'eau, donc l'épuration de l'eau et travailler en synergie en fait avec la nature, quoi.
Laureline, qu'est-ce que vous avez envie de dire à des gens qui sont plus jeunes, qui nous écoutent, qui ont 17 ans, 18 ans, qui veulent se tourner vers l'écologie et en faire leur métier?
Eh bien, qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. En fait, le domaine de l'écologie est très large. Il n'y a pas besoin. Donc, on pense souvent dans le domaine de l'écologie aux naturalistes, à ceux qui sont tout le temps vraiment proches de la nature tous les jours. Non, non, ça se fait aussi par de la gestion de projet, par de la politique, de la stratégie. c'est pas qu'un travail de terrain. Il y a aussi beaucoup de possibilités. Il n'y a pas forcément besoin d'être très spécialiste d'un domaine botanique ou ornithologue. Ou... C'est des métiers en construction et qui ont, je pense, beaucoup d'avenir.
Jean-Jacques Blanchon, pour terminer, donc je me tourne vers le chargé de mission biodiversité, agriculture, territoire de la Fondation pour la Nature et l'Homme de Nicolas Hulot. Une fois de plus, on va paraser gratis, c'est-à-dire que le gros des métiers divers, qui ne sont pas forcément si divers que ça, c'est donc dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des déchets. Donc ça, ça mérite une émission donc à part entière. Là, on est bien sur le domaine écologique. Quels sont les espoirs et puis quelle est la réalité que vous sentez aujourd'hui ?
Les espoirs, c'est la prise en compte avec la biodiversité des services écologiques, c'est-à-dire la dépendance des entreprises, soit des ressources, soit des services écologiques. Laureline vient d'évoquer le service écologique fourni par les zones humides. C'est important parce que ça concerne beaucoup d'entreprises, alors certes plutôt des grosses entreprises, notamment celles du luxe, mais également les entreprises du granulat, par exemple, hein, qui sont liées au bâtiment.
Et qui sont assez pionnières, il faut le dire, dans ce domaine-là, quand même.
Et qui sont pionnières du fait des contraintes réglementaires qu'elles ont assumées, mais qu'elles assument...
Aussi bien dans les carrières que dans les rivières.
Tout à fait. Mais qu'elles assument, je dirais, en devançant et en allant au-delà de leurs responsabilités. Donc ça, c'est un champ important, puisque il faut des compétences qui dépassent les compétences écologiques au sens strict. Mmh. Il faut très souvent des compétences juridiques, mais il faut aussi... des compétences en matière de négociation sociale. Donc ça, c'est un champ qui est en train de s'ouvrir. Autre champ, c'est celui du reporting autour de la biodiversité dans les rapports que les grandes entreprises ont à faire en matière de responsabilité sociale. Eh bien, on voit
environnementale.
On voit apparaître la nécessité donc d'avancer sur des critères, un certain nombre d'indicateurs permettant de renseigner les entreprises sur cette dépendance à leurs ressources. Voilà. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Un point qui est actuellement encore difficile, c'est que ces métiers de la biodiversité et des services écologiques, jusqu'à présent, ils n'avaient pas de lisibilité au sein de Pôle emploi et dans les statistiques nationales en ce qui concerne le référentiel des métiers. Et c'est vrai que c'est une des réussites, je crois, de ce plan de mobilisation pour les métiers de l'économie verte initié par le ministère de l'écologie, d'avoir commencé à traiter le sujet. Et donc maintenant, il y a un observatoire national des métiers de l'économie verte qui est en train de se structurer. Donc 18 filières identifiées comme stratégiques, dont celle de l'ingénierie écologique. Et surtout, un nouveau domaine de métier qui est apparu, qui est celui donc des métiers de la biodiversité, qu'on a évoqué tout à l'heure avec 60 000 emplois.
Merci à vous deux, donc Jean-Jacques Blanchon et donc Olivier Thaler. Donc le Salon des métiers et des professionnels de l'écologie se tiendra les 7, 8 et 9 février à Montpellier, vous l'avez noté. Et puis de très nombreux sites sur le site de CO2 Mon Amour, justement. Donc Anne Gouzon donc, a bien rempli ce site, donc ça vous donnera effectivement pas mal de pistes. Je vous ai dit qu'il n'y avait rien d'autre témoin. On a commencé par le froid avec Jean-Marie Perrin. On va terminer par le froid, mais le froid des Hautes-Alpes. Bonjour Christian Coloumi.
Bonjour Denis.
Alors Christian, vous êtes, bon, au-delà d'être un ami, mais vous êtes avant toute chose. Vous êtes un ancien, enfin vous êtes toujours garde du parc national des Écrins, vous êtes chef de secteur sur la porte de Châteauroux, donc à côté d'Embrun. Déjà, vous êtes un homme évidemment de terrain avant toute chose, un amoureux des aigles. Que se passe-t-il à la fois dans le ciel et en ce moment? Quelle est, je dirais, presque la couleur du froid chez vous?
Mais je crois que c'est un peu comme toute la France, les Hautes-Alpes en ce moment. Disons plutôt que la France ressemble aux Alpes, je crois. C'est tout blanc, il fait froid, ça s'est bien réchauffé, là il fait moins 7, vous voyez. Il y a une espèce de petite bâche légère qui camoufle le soleil et qui l'empêche de nous chauffer, parce que dans les Alpes du Sud, vous savez, ce soleil-là, vers la mi-journée, bah, il nous permet de remonter les degrés pas mal. Donc c'est bon. Alors les animaux, tout ça, c'est dur. Ils passent une période un peu difficile, mais c'est l'hiver en même temps. Ouais. Hein, et il est là, on l'attendait, le voilà.
Alors Christian Coloumi, comment est née votre passion? Elle est très intéressante parce qu'au départ, vous êtes un petit gars de Montrouge, hein, donc dans les Hauts-de-Seine, ouais. Et puis vous arrivez dans le parc des Écrins.
Eh bien oui, j'ai rencontré la montagne grâce à un curé qui emmenait les jeunes des banlieues dont je faisais partie visiter la montagne. Et la montagne qu'on visitait, c'était celle des Écrins, justement. Ça s'appelait pas encore comme ça, ça s'appelait Loisan. Et j'ai pris un grand coup sur la tête quand j'ai vu la montagne. Je dis, c'est ça que je ferai quand je serai grand. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je suis grand, mais j'ai toujours envie de faire ça. Et avec beaucoup de plaisir. Donc, j'ai cette chance d'être entré au Parc National à sa création en 1974. Et de travailler dans ce beau, bel espace pour une bonne cause en même temps.
Et on rentrait sans forcément avoir fait 12 km d'études avant ou...
À l'époque, non, c'était un concours qui recrutait des gens qui étaient sur place, qui avaient des compétences en montagne, puisque c'était un parc de montagne. On n'était pas encore des fonctionnaires à l'époque. Donc savoir faire du ski, savoir faire de la montagne, avoir une expérience dans ce domaine, ça comptait. Les choses ont beaucoup changé depuis, peut-être un petit peu dommage, mais en tout cas, la montagne est toujours là, et les gardes, tous mes confrères, mes consoeurs également, sont un peu comme moi, dans une passion, ils ont une grande chance de vivre un métier passion, et de partager ce qu'ils ont la chance de voir tous les jours, quotidiennement, dans la montagne.
Alors vous avez une très jolie phrase, parce qu'il y a un proverbe que l'on connaît qui dit « Le sage montre le ciel, l'imbécile regarde le doigt », et vous l'avez très joliment complété.
Oui, moi j'ai dit que le prêtre nous montrait le ciel. Moi j'ai pas regardé aussi haut, je me suis arrêté à la montagne, au nage éternel, j'ai pas pu grimper plus haut, mais c'est déjà pas mal, c'est un sacré beau paradis.
C'est déjà bien. Et alors il y a un mentor que l'on connaît encore, qui est Gaston Rébuffa. Qu'est-ce qu'il vous a apporté, lui?
Quand j'étais adolescent, je lisais ses bouquins et je rêvais là-bas, depuis la banlieue parisienne, à ce qu'est ma vie aujourd'hui, en fait. Et il a dit des choses très belles sur le parc national avant qu'il ne soit créé. Il écrivait « C'est un paradis sauvage fait pour le bonheur des hommes, des fleurs et des bêtes. Ici, on marche, on grimpe, on respire, on regarde, on écoute le silence. » Quoi dire de plus dans un parc national? Je crois que tout est dit là, avec beaucoup de poésie, beaucoup de réalisme en même temps. Et c'est ce qu'on essaie de conserver, parce que par rapport à vos invités qui se sont exprimés précédemment, eh bien, un parc national, c'est de la conservation. On ne fait pas de restauration, proprement dit. On fait de la conservation. On essaie de garder ces beautés comme elles sont, en participant évidemment à la vie locale. Alors, la surveillance, fait partie de notre métier, la connaissance, les inventaires, le partage aussi, la communication que l'on peut faire, et puis la vie locale compte beaucoup. Les parcs aujourd'hui s'engagent dans des procédures de charte avec les habitants pour aller ensemble vers un objectif.
Avec davantage de poids, on va dire, avec les élus locaux, et moins de poids, donc descendant de la part de l'État. Alors là, on va être tout à fait honnête, parce que si on n'a pas fait l'émission sur le recrutement, c'est parce que sur les parcs nationaux, ce qui nous intéressait, c'est votre passion, mais je vais pas dire que on recrute, mais au contraire, on décrute. Hein.
Oui, c'est malheureusement actuellement le cas. Déjà, on n'est pas très nombreux dans les parcs nationaux. On est dans la filière, on est des agents de l'environnement dans la filière des espaces protégés, et on est 250, disons, pour la France entière. Et les restrictions dont tout le monde entend parler...
À la RGPP, bien sûr.
Et voilà, c'est ça. On est à moins 10% à peu près dans les moyens, comme dans le personnel. Donc, c'est vrai qu'il faut encore rêver, et je m'adresse là aux jeunes des banlieues que j'étais autrefois, rêver à ce métier. Vous y arriverez peut-être, mais c'est encore un peu plus difficile qu'avant.
Oui, mais il faut être très très matheux maintenant. J'ai vu ça aussi dans
l'écoutement. Un petit peu, parce que la concurrence et le concours lui-même, il n'est pas particulièrement difficile, mais il y a des grosses pointures qui se présentent, des gens qui ont des bagages, bac plus 10 parfois. Donc c'est vrai que quand on arrive avec un bac simplement ou un bac plus 2, c'est plus difficile, mais c'est possible. Voilà. Donc il faut y croire.
Alors maintenant, revenons sur cette montagne que vous avez sous les yeux. Allez, vous avez 45 secondes pour nous faire peut-être un petit peu rêver. Est-ce que vous avez sous les yeux? Est-ce que
oui? Tout à l'heure, passer depuis chez moi des goélands. Et c'est marrant
Vous dites, vous n'êtes pas sur un parc marin, des goélands?
Des goélands. Ah oui. Les goélands ont reconquis la montagne et ils font des allers-retours tous les jours devant la maison. C'est très, très insolite, ces oiseaux blancs qui, effectivement, comme vous le disiez, évoquent plutôt la mer. Ben, ils sont ici aussi. C'est très... très drôle en fait. Hein. Et puis il y a les petits oiseaux qui actuellement, et tout le monde le sait, et qui passent une période très difficile, hein, quand on pèse 15 grammes et qu'il faut passer la nuit à moins 15 dehors, et bien moi je leur donne un petit peu à manger dans le jardin, et je vous assure que c'est la grosse fiesta, c'est le festin là en ce moment.
Que fait votre aigle préféré actuellement?
Alors, mon aigle préféré est en train de se préparer à nicher, puisque les grands rapaces nichent très tôt en saison. Sachez que les gypaètes ont déjà pondu, plusieurs ont déjà pondu, et qui passent la journée entière, à part les températures qu'on connaît, sans bouger, pour préserver leur trésor que sont leurs œufs. Et mon aigle préféré, ben lui, il est en train de dire aux autres, ne venez pas ici, parce que c'est mon quartier, c'est chez moi, et il commence à mener des branches sur les airs. Et voilà ce que c'est mon aigle préféré.
Grand merci à vous, Christian Couloumi, merci de nous avoir fait partager votre passion. Donc, pour terminer cette émission consacrée au métier de la biodiversité. Je vous signale que vous avez le 29e Festival international du film d'environnement qui débute cette semaine, ça c'est à Paris, au cinéma des cinéastes avec le conseil régional comme partenaire, on va dire, principal. Donc de très nombreux films, c'est très intéressant, 29e Festival international du film d'environnement. Merci à tous, à Dofar Guérid, à Michel Thomas, à Stéphane Combe, à Valérie Ayesteray qui réalisait l'émission, à Jean-Baptiste Audibert qui a choisi les disques. Donc le site, hein, bien nourri par Anne Gouzon. On se retrouve la semaine prochaine, je pense qu'on va parler un petit peu d'énergie, me semble-t-il. L'atelier du Mont Petit Loup, ce sera demain à 19h54 après les petits bateaux. Bon froid, mais en tout cas plein de chaleur humaine vers vous. Si vous n'aimez pas forcément les métiers de l'environnement,